Merci à Samuel et toutes les personnes qui ont prié durant la semaine qui vient de s'écouler pour l'évangélisation qui a eu lieu dans les quatre centres, dont deux particulièrement proches de notre Église, à savoir à Louvain-la-Neuve et les groupes bibliques universitaires. Difficile de résumer ce qui a eu lieu, sauf pour dire que par la grâce de Dieu, il y a eu beaucoup de personnes qui ont entendu l'Évangile, que ce soit à l'écran ou dans des conversations en chair et en os, dans des parcs par exemple, et que pas mal d'équipiers ont été frappés par l'ouverture des gens que nous avons abordés pour annoncer l'Évangile. Et donc, nous pouvons être encouragés par cela. Nous demandons maintenant à Dieu de faire fructifier les graines qui ont été semées. Je vous invite à prier. Pierre 4, 11, si quelqu'un parle, que ce soit de manière à communiquer les oracles de Dieu, permet que ce soit le cas maintenant. Cela afin que nous puissions être rendus capables de souffrir pour le Christ et te louer pour le Christ comme nous le devrions. C'est ce que nous te demandons pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans la Bible que lorsque Jésus était sur terre, il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Le psaume 22 nous permet de sonder à la fois ses cris, ses larmes et l'exaucement. Le Nouveau Testament nous permet de comprendre que le psaume 22 parle de Jésus. Verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus a prononcé ces paroles lorsqu'il était sur la croix. Le verset 19. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique, repris par les quatre évangiles dans le récit de la passion de Jésus. Et Jean précise notamment que l'Écriture s'accomplit en cet endroit. Et cela continue, les mains et les pieds percés, la soif, les os qui se disloquent, la moquerie, tous ces éléments dans le psaume. Et tout à la fin, les tout derniers mots, « Il a agi », lisons-nous. Ces mots qui anticipent sur une grande déclaration faite par Jésus. Lorsqu'il est sur la croix, tout est accompli. Lisons le psaume. Du chef de chœur sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint. Tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient mis leur confiance, ils avaient confiance et tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi et ils échappaient, ils mettaient leur confiance en toi et ils n'avaient pas honte. Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver outragé par les humains et méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort au Seigneur. Il lui donnera d'échapper, il le délivrera puisqu'il a plaisir en toi. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté depuis le sein maternel, depuis le ventre de ma mère. Tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Une multitude de taureaux m'entourent, des bêtes de Bashan me cernent. Ils ouvrent contre moi leur bouche comme un lion qui déchiquette et rugit. Je me répands comme de l'eau. Tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Il fond au milieu de mes entrailles. Ma force dessèche comme de l'argile. Ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'entourent, une troupe mauvaise m'encercle, ils me lacèrent les bras et les jambes. Je peux compter tous mes os, eux, ils observent et je leur suis offert en spectacle. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Délivre-moi de l'épée, délivre ma vie de la griffe des chiens, sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de l'aurore. Tu m'as répondu. Je parlerai de ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le, vous tous descendants de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du pauvre. Il ne se détourne pas de lui. Quand celui-ci l'appelle au secours, il l'entend. C'est de toi que viennent mes louanges dans l'assemblée nombreuse. Je m'acquitterai de mes vœux devant ceux qui te craignent. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à jamais. Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se tourneront vers lui. Tous les clans des nations se prosterneront devant lui. Car le règne appartient au Seigneur. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui. Plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra dire sa justice au peuple qui naîtra, car il a agi. L'endroit où il faut commencer pour bien comprendre ce psaume, c'est avec David, comme on vient de lire dans le titre, dans le premier verset. Portons notre attention sur le degré des souffrances par lesquelles David passe dans les versets 2 à 22. Je ne dis pas qu'on puisse déterminer avec précision l'épisode de la vie de David qui sous-tend ce psaume. Mais lorsqu'on considère le déroulement structurel de cette première partie, deux observations clés s'en dégagent. D'abord, Dieu ne répond pas. Au début, Dieu ne répond pas, ça c'est le verset 3, et cette plainte continue jusqu'au verset 22 où nous lisons tout à la fin de la section, tout à la fin du verset 22, tu m'as répondu. Tu m'as répondu, là signale le tournant, ouvre la porte à la seconde partie du psaume. Autre observation de cette première partie, Dieu est loin. Dieu est loin. Au début, au milieu et à la fin de la section, au début, verset 2, Dieu se tient loin du salut de David. Vers la fin de la section, le verset 20, ne sois pas loin, ne t'éloigne pas. Et au milieu, le verset 12, « Ne sois pas loin, car la détresse est proche. » À l'intérieur de cette section, le nombre de mots qui précèdent le verset 12 égale précisément le nombre de mots qui suivent le verset 12. Le verset 12 se trouve pile au milieu et détient la clé de cette première section et mise en relief. « Ne sois pas loin, car la détresse est proche, car il n'y a pas de secours. » David est démuni. Il se sent abandonné par Dieu. Dieu ne répond pas. Dieu reste loin. Ce qui est proche, c'est la détresse. Ce dont il a besoin, c'est du secours. Mais le secours ne vient pas. Certes, David fait preuve de foi. Il prie, il s'adresse à celui qui est mon Dieu, son Dieu. Mais c'est comme si le Dieu de David n'agissait pas comme le Dieu de David. Et en effet, il s'agit d'un cas de figure qui est théologiquement inconcevable pour lui, ce qui se passe. C'est ce que nous trouvons dans la sous-partie qui précède le verset 12. Verset 4. « Pourtant, tu es le saint, tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient mis la confiance, ils avaient confiance. Tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi, ils échappaient. Ils mettaient la confiance en toi et ils n'avaient pas honte. » Lorsque David considère qui Dieu est, ce qui se passe dans sa vie en ce moment n'est pas cohérent, car Dieu est le Dieu saint et moralement intègre. Si c'est dans sa nature de délivrer son peuple, comme il l'a fait par le passé, il doit encore le faire maintenant. Il ne peut pas se renier. Vous voyez comment l'idée de se confier en Dieu est répétée dans ces versets 4 à 6. Par le passé, le schéma était clair. Le peuple se confie en Dieu, Dieu exauce le peuple de Dieu n'est pas dans la honte. Mais maintenant, David se confie en Dieu, Dieu ne l'exauce pas, David est méprisé. Il est traité comme un sous-homme, verset 7. Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains et méprisé par le peuple. C'était théologiquement inconcevable. Normalement, Dieu est proche. Il siège au milieu des louanges d'Israël, verset 4. Et David est celui qui devait siéger sur le trône d'Israël. Lisez les deux psaumes qui précèdent et vous allez voir, David se voit délivré. Mais pas maintenant. Il a beau faire confiance en son Dieu, mais son Dieu semble un peu faible. Ce qui réjouit les ennemis de David. Écoutez leur moquerie, verset 8. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort au Seigneur, il lui donnera d'échapper, il le délivrera puisqu'il a pris plaisir en lui. » Et théologiquement inconcevable que Dieu puisse se tenir au loin. Et cela pour une autre raison, une raison toute simple. Par le passé, Dieu a toujours été proche. Il a toujours pris soin de David. Verset 10, « Oui, tu m'as tiré du ventre maternel. Tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté depuis le sein maternel, depuis le ventre de ma mère. Tu as été mon Dieu. » Mais maintenant, c'est la solitude. L'abandon, l'absence de secours. Inconcevable au plan théologique et impossible au plan pratique également. C'est ce qu'on trouve dans la sous-partie qui suit le verset 12. Si Dieu reste loin, qu'est-ce que cela donne pour David dans la pratique, sur le terrain? Eh bien, ses ennemis sont proches. David est sans doute en fuite, mais les hommes de Saül, ou je ne sais pas qui, sont en passe de le rattraper et le cerner. Verset 13, Une multitude de taureaux m'entourent, des bêtes du Bashan me cernent. Et verset 17, car des chiens m'entourent, une troupe mauvaise m'encercle. On a compris qu'il s'agit d'êtres humains, de scélérats, de malfaiteurs, mais c'est comme si, pour essayer de faire justice à ces images ici, c'est comme si c'était des taureaux, pensant à leur force, comme si c'était des lions, pensant à leur voracité, comme si c'était des chiens, pensant à leur férocité. Voici des charognards, en quelque sorte, qui cherchent leur proie. Qu'est-ce qu'il peut faire, David ? Il est encerclé, à moins d'une intervention divine, mais il n'y en a pas. Sa situation est dans la pratique impossible. Verset 15, « Je me répands comme de l'eau et tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire, il fond au milieu de mes entrailles. » Il est comme de l'eau qui s'écoule. Nous, on dirait qu'il est lessivé. Physiquement, c'est une épave. Ses os se disloquent. Un peu plus loin, il est comme un squelette. Hein. On peut compter ses os. Psychologiquement, il n'a plus de courage. Son cœur fond comme de la cire. Verset 16, il n'a plus de force. Il est déjà quasi mort, ma force dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. Le bilan, c'est que les uns et les autres peuvent déjà prendre ses vêtements. C'est comme ça qu'on comprend la chose. Hein. Verset 9, c'est comme si, voilà, c'est fini, sa vie, ouais, servez-vous, voici mes vêtements. Comme si sa mort avait déjà eu lieu. Impossible au plan pratique de rester en vie. Mais il continue à supplier Dieu. Verset 20, « Toi, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Délivre-moi de l'épée, délivre ma vie de la griffe des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de l'aurore. » Nous l'avons démontré en introduction, ce psaume parle de Jésus-Christ. Faisons donc une avance rapide vers son temps sur terre. Et il faudrait aussi gravir un échelon par rapport à David, qui est en quelque sorte l'image à Jésus qui est l'accomplissement. On passe à un niveau supérieur. Est-ce que nous pouvons nous figurer la solitude par laquelle Jésus a dû passer? Pas de secours pour lui lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémané. Saisi de frayeur et d'angoisse, son âme triste à en mourir, lisons-nous dans les évangiles. Là, il anticipe sur des réalités terribles. Lui, le Fils, devra assumer une punition effroyable qui proviendra de son Père. Théologiquement inconcevable, c'est presque le cas. Éloigne de moi cette coupe. Certes, la prière ne se termine pas là, mais elle commence bel et bien par là. Quel prix pour lui que d'être blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, d'assumer la punition qui nous donne la paix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a pas de rupture entre le Père et le Fils sur la croix. Nous lisons dans Hébreux 9 que le Fils s'offre lui-même à Dieu. Mais quelle expérience de solitude pour notre Seigneur. Quel sentiment d'abandon, d'absence de secours. Lui qui doit boire la coupe de la colère de son Père. Nous nous figurons Jésus sur la croix et nous nous figurons les 3 heures de ténèbres qui commencent au milieu de la journée et que dire des circonstances impossibles au plan pratique pour lui par rapport à son ancêtre David là avec Jésus-Christ. Nous nous trouvons encore une fois à un niveau supérieur et dans une autre dimension. Ce qui semblait impossible dans la pratique pour David était impossible dans la pratique pour Jésus, car au final, David a été arraché aux griffes de la mort. Et Jésus, lui, ne peut pas rester en vie. Il choisit de ne pas rester en vie. En un sens, il n'y a pas de délivrance face à la mort. Il meurt bel et bien. Il est enseveli. En un sens, Jésus a été abandonné. Il est devenu malédiction pour nous. Ensuite arrive la délivrance sous une forme plus glorieuse que la délivrance que David a connue. Il ressuscite d'entre les morts. Et nous, dans tout cela, eh bien, puisque Jésus a fait face à la solitude et à l'abandon, nous croyant en Jésus-Christ ne serons jamais abandonnés. Pour nous, je cite Hébreux 13, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Fin de citation. Mais nous pouvons avoir l'impression d'être abandonné par Dieu. Il y a 3 ans, j'étais en voiture dans le sud de la France, assez long trajet depuis une église où j'avais servi dans des enseignements et puis à l'aéroport. Et un frère très sympa était en train de me conduire. En l'occurrence, j'ai découvert qu'il avait besoin d'un peu de temps pour... J'ai repris contact avec lui par la suite. J'ai sa permission de parler de ce que je vais mentionner. Je ne vais pas dévoiler son nom. Mais il était rudement éprouvé. Et il m'a expliqué qu'à un moment donné, il avait gravi une montagne au milieu de la nuit. Et dans sa détresse, il avait repris à son propre compte les paroles du début de notre psaume 22. Il s'était écrié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais par la suite, il s'est senti inculpé dans sa conscience et il s'est repris et il craignait le blasphème et il considérait que ces paroles-là devaient être réservées à notre Seigneur et Sauveur. Il voulait parler avec moi concernant cela et ce que je pensais de cela, entre autres durant ce trajet. A contrario, un commentateur relate l'histoire d'une femme qui avait une fille autiste. Cette femme souffrait profondément de ce que sa fille autiste ne lui montrait pas d'affection. Et un dimanche, elle était à l'église et c'était une matinée particulièrement éprouvante pour elle. À la fin de la matinée, cette dame s'est dit, non, moi je ne peux pas adorer un Dieu qui puisse permettre que ma fille soit comme ça. Et elle a décidé de ne jamais franchir la porte d'un bâtiment d'église. Jusqu'au moment où, une année plus tard, alors qu'elle était en train de faire le ménage à la maison, Elle est tombée sur un exemplaire de la Bible. Et elle a ouvert. Et en l'occurrence, au psaume 22, elle a commencé à lire. Mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Et les yeux larmoyants, cette dame s'est dit, voilà, voilà ce que j'ai envie de dire à Dieu depuis si longtemps. Et je n'arrivais pas à trouver les paroles. Qui a raison? Est-ce que c'est notre frère dans le sud de la France ou est-ce que c'est cette dame? Je pense qu'il y a du vrai dans les deux perspectives. Notre frère dans le sud de la France a compris quelque chose d'important, la souffrance de notre Seigneur est sans commune mesure avec notre souffrance. Ce qui s'est produit sur la croix est dans une catégorie à part. Mais la mère a compris à bon escient que nous pouvons reprendre les paroles du psaume à notre compte. Les correspondances entre ce que David a vécu en tant que croyant et ce qu'un croyant aujourd'hui peut vivre rendent cette démarche légitime. Dimanche passé, après avoir été ici même pour la rencontre du soir, je suis rentré et mon épouse Myriam expliquait que mon père avait essayé de me joindre. C'était pour annoncer le décès d'un membre de la famille, en l'occurrence un cousin qui a le même âge que moi. On était même meilleurs amis à un moment où on a grandi ensemble. C'était le gros choc pour nous tous en famille. Et je ne sais pas pour sûr si je l'ai amené au Christ. D'autres personnes étaient impliquées aussi. J'ai certainement prodigué pas mal d'enseignements bibliques à différents moments à son intention. C'est quelqu'un pour lequel j'ai prié pendant des années et des années parce qu'il souffrait de la schizophrénie et il n'a jamais pu vraiment vivre une vie chrétienne ordinaire à cause de cela. Et il a fini sa vie terriblement seul, juste pas du tout entouré. Et il aurait bien pu exprimer ce sentiment de solitude et prier en fonction de ce verset clé de notre psaume, le verset 12. « Ne sois pas loin, car la détresse est proche, car il n'y a pas de secours. » En même temps, je suis persuadé que plus la souffrance est liée à notre vie chrétienne, plus il nous est approprié de faire écho à ce psaume dans notre vie de prière. Pourquoi? Trois raisons. D'abord, parce qu'un lien étroit entre le Christ et son peuple ressort du psaume. Un peu plus loin dans ce psaume 22, verset 25, le pauvre dans ce verset, le pauvre, ou peut-être que vous avez malheureux ou affligé dans votre traduction, le pauvre au singulier, verset 25, est mis en association étroite avec, verset 27, les pauvres ou les malheureux ou les affligés. Le pauvre, au final, c'est Jésus. Et le pauvre, Jésus, verset 25, il est au final délivré, et cela en faveur de ceux qui craignent Dieu, verset 26, les pauvres, ou les malheureux, les affligés, les personnes qui craignent Dieu. Pauvre, vous comprenez, dans ce sens de souffrir. Il y a ainsi ce lien étroit entre les afflictions de Jésus et les afflictions des personnes pour lesquels Jésus est mort. Deuxièmement, nous croyants sommes en Christ. Nous avons été crucifiés avec lui, nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Romains 6, Romains 8. Troisièmement, là où nous sommes impliqués dans l'œuvre de l'Évangile et là où nous souffrons en conséquence de cette implication, nous sommes particulièrement alignés avec les souffrances exprimées dans ce livre. Affirme ceci dans 2 Timothée 4. J'ai été délivré de la gueule du lion. Et il reprend ainsi le psaume 22, verset 14, à son propre compte. C'est surtout lorsque nous souffrons pour le Christ que nous nous trouvons dans l'axe de ce psaume. Et par moments, nous serons perplexes, nous serons conscients de la promesse selon laquelle Dieu s'approchera de nous si nous nous approchons de lui, mais il semblera qu'il reste loin. Nous serons conscients de ce que Dieu promet de ne jamais nous délaisser, mais il semblera que Dieu nous a abandonnés. Nous prions en fonction de la promesse de Hébreux 4, 16. Nous nous approcherons du trône de grâce pour connaître un secours opportun, mais nous nous sentirons abandonnés. Nous aurons l'impression qu'il n'y a pas de secours. Par moments, nous aurons envie, comme dans le psaume, de nous dire « mais c'est théologiquement inconcevable ou impossible dans la pratique. Mais pourquoi ce jeune chrétien au Pakistan roué de coups et torturé à mort ?» Pourquoi est-ce que durant la semaine qui vient de s'écouler, au moins 6 personnes qui s'apprêtaient à participer à la semaine d'évangélisation sous une forme ou sous une autre ont dû être tenues à l'écart pour cause de Covid ? Alors que c'est le travail du Seigneur. Pourquoi une jeune sœur qui se forme pour le service de la parole et qui attrapait la Covid en automne est-elle toujours malade aujourd'hui ? Pourquoi cette sœur qui est si nettement engagée dans l'œuvre du Christ doit-elle passer par la dépression? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de personnes qui se connectent sur YouTube pour participer à un tel événement où l'Évangile est annoncé, nous avons bien prié, nous avons mis le paquet pour bien organiser cela? Pourquoi est-ce que si peu de personnes se tournent vers le Christ tout court, même en temps de crise sanitaire, malgré, on pourrait peut-être s'attendre à ce que lorsqu'il y a une crise, les personnes puissent être plus ouvertes à... Pourquoi tant de pasteurs sont-ils hors de combat à cause de l'épuisement, de burn-out et donc d'arrêt maladie? Pourquoi ce jeune pasteur si influent doit-il mourir si jeune? Pourquoi y a-t-il si peu de personnes qui souhaitent se former pour le service de l'Évangile alors que les besoins sont si grands? Pourquoi est-il si difficile pour tel frère de se voir octroyer un visa lui permettant de servir Dieu dans ce pays? Pourquoi juste 15 personnes en présentiel en conférence, c'est 50? Pourquoi ce frère que j'ai aidé se laisse-t-il embarquer par un faux docteur? Pourquoi l'impossibilité d'acheter le bâtiment pour l'Église alors que cela semblait si prometteur et potentiellement bénéfique pour l'avancement du règne du Christ? Pourquoi la réputation de ce serviteur doit-elle souffrir et 90% faux? Mais passer par des souffrances du fait de notre foi en Christ fait partie intégrante de la grâce. Philippiens 1, 29, souffrir pour le Christ est un don de la grâce de Dieu. Nous avons peut-être du mal à accueillir cette réalité, mais c'est plus facile si nous contemplons la croix, si nous nous baignons dans le psaume 22, si nous sommes cohérents dans notre ambition. C'est quoi notre ambition? Notre ambition est de connaître le Christ. Écoutons l'apôtre Paul dans Philippiens 3. Quelle est l'ambition de Paul? Quelle est notre ambition? Je cite, « Mon but est de connaître le Christ, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. » Notre ambition est de mieux connaître le Christ et cela veut dire participer à ses souffrances. Profitons de ce psaume, pour bien gérer nos souffrances à l'instar de notre maître. Mais juste avant qu'on entre dans le schéma de l'apitoiement sur soi, sachons que ce chemin nous est bloqué, fermé par ce psaume. Car si on fait justice au psaume 22, on ne se focalise pas trop longtemps sur ses souffrances. En revanche, on passe assez rapidement en mode louange, parce qu'il y a aussi la partie qui commence avec le verset 23. Je parlerai de ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous descendants de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du pauvre. Il ne se détourne pas de lui quand celui-ci l'appelle au secours. Il l'entend. C'est de toi que viennent mes louanges dans l'assemblée nombreuse. Je m'acquitterai de mes vœux devant ceux qui te craignent. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à jamais. Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur, se tourneront vers lui. Tous les clans des nations se prosterneront devant lui. Car le règne appartient au Seigneur, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver la vie, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra dire sa justice au peuple qui naîtra, car il a agi. Oh, cette délivrance effectivement a lieu et la portée de la louange qui suit la délivrance est à nous couper le souffle et nous sommes impliqués dans cette louange. Voyons cela maintenant. Donc, ne sous-estimons pas ce que David prévoit ici à la suite de la délivrance. D'abord pour lui-même. Au lieu d'être entouré d'ennemis dans un contexte d'épreuve, David sera entouré de son peuple dans un contexte de louange. Il sera en train de louer Dieu pour la délivrance. Il sera en train d'appeler d'autres à louer Dieu. Là, il n'y a pas de doute. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Je parlerai, verset 23, je parlerai de ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée. Je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous descendants de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. Verset 26, c'est de toi que viennent mes louanges dans l'assemblée nombreuse. Je m'acquitterai de mes vœux devant ceux qui te craignent. Et maintenant, passons au palier supérieur. Qu'est-ce que cela donne pour Jésus-Christ? Alors, selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, c'est Jésus, le ressuscité, qui s'exprime selon ces termes. Verset 23. Je parlerai de ton nom, mes frères, au milieu de l'assemblée, je te louerai. C'est Jésus qui parle et qui annonce le nom de Dieu à ses frères, qui loue Dieu au milieu de l'assemblée. Quelle assemblée? Il s'agit d'une grande assemblée. Dans la perspective, encore une fois, de l'Épître aux Hébreux, il faudrait avoir en tête le grand rassemblement qui est actuellement dans les cieux. Par la foi en Christ, des frères et sœurs en Christ sont rassemblés dans la Jérusalem céleste et entendent la voix de Jésus. Ils entendent plus exactement la voix du sang de Jésus, lisons-nous dans Hébreux 12. Voici le rassemblement festif qui est centré sur la mort de Jésus-Christ, centré justement sur ce dont il est question dans la première partie du psaume. Ce grand rassemblement connaît des expressions en miniature, dans les églises locales, même si nous sommes dans l'impossibilité de vivre cela intégralement en temps de COVID. Des rassemblements en église locale, là où l'on se met à l'écoute de la parole concernant la mort de Jésus, là où nous louons Dieu pour la mort de Jésus. Et ce qui frappe dans cette dernière partie du psaume, c'est la composition de ce rassemblement, fruit de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. D'abord, ses frères et sœurs viennent de partout. Verset 28. Toutes les extrémités de la terre, toutes les nations sont bénies. On connaît cela en miniature dans notre Église. Équateur, Brésil, Costa Rica, États-Unis, Congo, Île Maurice, Madagascar, Rwanda, Japon, Syrie, Moldavie, Roumanie, Espagne, France, Belgique, ne croyez pas que ce soit exhaustif. Quelques-uns là, des pays représentés au sein de notre communauté. Qu'est-ce que nous avons toutes et tous en commun ? Verset 28. Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se tourneront vers lui. Tous les clans des nations se prosterneront devant lui. Le seul critère, c'est se tourner vers Dieu, se prosterner devant Dieu. Et si c'est là le critère, la grande assemblée peut englober des personnes qui se situent au pôle de long spectre. Verset 30. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra dire sa justice au peuple qui naîtra. Voici donc des personnes aisées et en pleine forme d'un côté et des personnes qui sont en réanimation. Des athlètes de haut niveau et des personnes qui sont à peine en train de rester en vie. Mais il y a aussi le spectre du temps qu'on vient de lire là. Les frères et sœurs englobent des personnes de générations bien antérieures et des générations à venir. La louange rayonne dans tous les sens. Il faut mettre des lunettes 3D et nous pouvons identifier là où nous nous trouvons, au moins sur l'un des spectres, car si des personnes figurent dans cette assemblée, c'est parce qu'elles ont entendu l'évangile concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ et elles ont répondu à cet évangile en se prosternant devant Dieu. Cela présuppose que génération après génération, il y a des croyants qui annoncent l'évangile. Verset 31, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra dire sa justice au peuple qui naîtra. Et donc le message doit continuer à se perpétuer au sein de cette grande assemblée. Jésus-Christ appelle ses frères et sœurs à louer Dieu. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Trois raisons. Trois quarts qui en forment une. Verset 25 d'abord. Le Seigneur, Dieu le Père, ne s'est pas détourné de son Fils lorsque son Fils a crié au secours. La résurrection a eu lieu. Alléluia. Ensuite, deuxième raison, deuxième quart. Verset 29. Car le règne appartient au Seigneur. Enfin, troisième, car, tout à la fin, verset 32 à la fin, car il a agi. Bref, le Dieu qui règne a exaucé la prière du Christ. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et tout est accompli. Les prières que Jésus a présentées avec de grands cris et avec larmes n'étaient pas en vain. La mort du Christ a gagné le pardon des fautes pour toute personne qui craint Dieu, juif ou non juif, en bonne santé ou mourant, y compris de toutes les générations qui restent à venir. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère. Je suis pardonné à la croix. En méditant ce psaume, nous serons donc amenés à nous focaliser sur ce que les souffrances du Christ ont déclenché, ce rayonnement de louange en 3D. Nous allons louer Dieu déjà dans nos petites assemblées, nous le louerons dans la grande assemblée et nous annoncerons l'évangile à des personnes qui doivent encore devenir des frères et sœurs de Jésus-Christ. Laissons-nous donc fortifier par ce psaume 22 pour nous associer aux souffrances du Christ et à la louange à laquelle ses souffrances donnent lieu. Lorsque Jésus est suspendu sur la croix, il est conscient non seulement de la solitude, mais encore de la perspective de la délivrance et des conséquences extraordinaires de cette délivrance. Non seulement « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais encore « il a agi, tout est accompli. » Non seulement sur le mont du calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs, mais encore cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi.